session de théologie par le Père Jean-Marie Arimont sur l'Église, peuple et famille de Dieu, le 20 mars 1998, troisième conférence.
Alors là, on tombe dans des questions fondamentales qui sont quasiment du domaine de la catéchèse. C'est-à-dire, en principe, c'est des questions qu'on devrait avoir intégrées, dont on devrait avoir intégré les réponses. Alors, permettez-moi, donc rapidement, je vais essayer d'être bref, de répondre aux questions qui sont posées. Alors, la première, la place du jugement particulier en fonction du fait que le schéma de la balance, démon qui appuie, Vierge Marie qui pousse, est faux, le restitue à sa place. Alors, pour ça, permettez-moi de vous raconter une petite histoire qui est tirée d'un auteur anglican qui s'appelle C.S. Lewis. J'espère que beaucoup d'entre vous connaissent cet auteur, car il est clair qu'il a marqué l'histoire du renouveau spirituel d'une façon unique en Angleterre. Et il a écrit un petit livre qui s'appelle « Un autobus pour le paradis ». Alors, avant de vous raconter l'histoire, sachez que cet auteur a traité des questions fondamentales de la foi sous forme de romans. Vous avez des tas de bouquins qui sont captivants, entre autres un bouquin sur la prière qui s'intitule « Et si Dieu écoutait ?». Il prend un être humain qui se met à prier, puis tout d'un coup, Dieu prend au sérieux la prière. Alors ça donne des situations assez rocambolesques. Il écrit des bouquins assez étonnants, par exemple sur la science et Dieu, qui s'intitule « Dieu au banc des accusés ». Je vous assure, fréquenter cet auteur, on ne perd pas son temps. Alors, dans cette petite histoire-là, un autobus pour le paradis, ça commence de la façon suivante. Il est clair, lui, il est anglais, donc ça commence en Irlande, dans un village sombre. Il pleut, il y a un peu de crachin, c'est vraiment pas très agréable. Et sur ce village, au milieu du village, il y a une place, les gens se rassemblent. Communauté normale, communauté tranquille. Est-ce qu'on pourrait présenter, imaginons que nous descendions dans ce village, on se rassemble. Bon, on nous présente un petit peu la physionomie des uns et des autres. Et puis, dans un moment, tout d'un coup, on change de registre, un autobus qui descend du ciel. Oh là là, bon, on tombe dans la science-fiction. Cet autobus se gare, tout le monde monte dans cet autobus, et l'autobus monte vers le ciel. Plus le voyage se précise, plus la lumière vient, plus on apprend à découvrir les gens, puis c'est des gens normaux. Les gens normaux, un petit fond de critique au fond du cœur, vous voyez, toute la structure du cœur telle qu'il peut être en chacun d'entre nous, avec les petites failles, les petites difficultés et autres. Bon. On apprend à découvrir un peu l'intérieur. Plus la lumière se fait forte, plus on découvre l'intérieur de chacun de ces personnages. Et puis tout d'un coup, ils arrivent au ciel. Super pelouse, bien sûr. Pour un Anglais, c'est normal. Les gens descendent et dès qu'ils mettent le pied par terre, ils hurlent de douleur. Alors il a tout un couplet là-dessus en montrant que c'est la première fois dans leur vie où ils découvrent l'autre pour ce qu'il est. L'altérité. Et c'est douloureux, l'altérité. Vous voyez, le premier acte de réalisme qu'ils font dans leur vie. Et puis, le choc, c'est toutes les personnes qu'ils ont fait souffrir dans leur vie les accueillent. Et chose étonnante, ces personnes-là ont pardonné. Avec un amour extraordinaire, c'est « Ah, quelle joie que vous soyez là, merveilleux, louons le Seigneur. » Vous voyez, un peu comme quelqu'un qui n'a pas la sensibilité charismatique et se retrouve en pleine assemblée de prières charismatique. Ça irrite un peu, si vous voulez. Donc on se retrouve dans ce cadre, c'est extraordinaire. Bon. Et puis, voilà que tout ce beau monde est invité par les personnes qu'ils ont fait souffrir à monter sur le sommet de la montagne pour aller voir Dieu. L'invitation est faite, dans la grande joie. Oh, mais c'est merveilleux, oui, nous allons aller voir Dieu, ainsi de suite. Bon, hop, l'ascension commence. Au cours de l'ascension, ils essaient les uns et les autres de faire renaître leur cœur humain. Vous savez, les petits pics, là, pour voir comment ça marche. Et puis, toutes les méchancetés qui sortent aux autres, ils se rendent compte que ça n'a aucun effet. Aucun effet. Parce qu'ils sont dans la grâce de Dieu, c'est un amour parfait. Et puis, juste avant d'arriver, ils se disent tous en même temps, mais le seul moyen de leur faire de la peine, c'est de faire demi-tour. Et on voit nos personnages faisant demi-tour, ne voulant pas aller voir Dieu pour faire de la peine à son prochain. On voit ce petit monde rentrer dans le bus et redescendre dans les ténèbres. La morale de cette histoire, nous dit-il, qu'est-ce que c'est que le jugement particulier ? Premièrement, le jugement particulier, ce n'est pas un jugement que Dieu porte sur nous, mais c'est le refus ou l'acceptation de la miséricorde divine. Autrement dit, ce que l'on appelle le jugement particulier n'est pas tant le fait que je veux me situer à l'égard de Dieu, je lui dire non, mais le simple fait que je vais refuser sa miséricorde. Vous voyez, il y a une nuance. Autrement dit, je ne pourrais pas dire que le jugement particulier, c'est un jugement positif de la part de Dieu. C'est avant tout un refus de la part de l'homme. Vous voyez, ça éclaire notre manière de voir un petit peu la façon dont Dieu nous regarde. Dieu nous regarde toujours avec la même constance. Cette constance, c'est sa bienveillance de grâce à notre égard. Que faisons-nous de cette bienveillance ? Nous pouvons la refuser. Pour des raisons futiles, simplement pour faire de la peine à son prochain. Vous voyez, je crois que c'est important de voir que le sens du jugement particulier n'est pas simplement, vous voyez, le bon Dieu qui est sur sa table, il y a son immense ordinateur, puis aujourd'hui, allez hop, il signe le truc, 4000 morts par accident de voiture, 50 000 cancéreux, et ainsi de suite, vous voyez. Et je pense que c'est important de se purifier de ce genre de schéma. Autrement dit, le jugement positif de Dieu, il porte sur la miséricorde. Et non pas sur la réprobation. En revanche, je pourrais parler de réprobation parce qu'il sait mon attitude à l'égard de sa miséricorde. Mais vous voyez, c'est tout autre. Je ne peux pas parler de jugement positif de Dieu dans l'ordre de la réprobation. En revanche, je peux parler de jugement positif de Dieu dans l'ordre de la miséricorde. Je crois que c'est important de souligner cet aspect. Alors, pure miséricorde que Dieu fait à Noé. Pourquoi lui plutôt qu'un autre ou tous les autres? On se dit ça à chaque fois. Ouais. Pourquoi celui-là, il est saint et pas moi? Alors, je vous rappelle un principe important, c'est de voir que la grâce de Dieu, elle correspond à la libéralité divine, et donc elle implique une dimension de gratuité. Et cette libéralité divine, elle s'inscrit dans le temps à travers une élection particulière. On le verra en parlant de l'Église, en parlant des élus. Il est clair qu'il y a un choix positif de Dieu, de l'un à l'égard de l'autre. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il peut disposer une personne, être témoin de sa miséricorde à l'égard d'une autre personne. Ça ne veut pas dire qu'il porte un jugement disant « De toute façon, cette personne, je n'en veux pas. » Vous voyez, c'est le schéma luthérien. Vous savez, bon, je crois qu'on en a déjà parlé, du moins non, peut-être pas. Mais le schéma luthérien, quel est-il ? Vous voyez, ça, c'est la ligne de mon existence. Je m'appelle Martin Luther. Là, je suis né. Je suis né, je suis là. Et puis là, il y a le thème de mon existence. Puis là-dessus, il y a Dieu. Dieu, il englobe tout ça. À un moment de ferveur particulière, je rentre au noviciat. C'est ce qu'a fait Luther. Hein. Alors là, c'est vraiment le temps parfait. La ferveur, mais alors, une ferveur de noviciat, c'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Et puis, au bout d'un certain temps, la difficulté de l'après-noviciat. Les abîmes d'angoisse, c'est ce que Dieu m'aime. Et puis après, la réflexion, c'est de se dire, mais mince, Dieu sait déjà ce que je vais donner. S'il sait déjà ce que je vais donner, de toute façon. Alors, l'expression si belle de Luther, pêche et fais ce que tu veux. Parce que de toute façon, quoi que tu fasses, le terme, il est déjà connu de Dieu. Vous voyez, l'angoisse existentielle, je ne sais pas si vous voyez, mais on a beau faire des efforts de vertu, de pénitence, d'aumône, de jeûne. Pour un vendredi carême, c'est quand même extraordinaire. Et puis tout d'un coup, on se dit, mais attendez, mais je fais tout ça, mais si ça se trouve, je vais terminer ma course contre le poteau. Et c'est angoissant existentiellement. Ça, c'est l'angoisse luthérienne. Donc de toute façon, le choix du terme, il est déjà fait, parce que Dieu le connaît. Et donc, quoi que je fasse, de toute façon, c'est déjà réglé. C'est réglé à partir du moment où je rentre dans l'existence. Comprenez, c'est l'ADN spirituel. Il y a l'ADN biologique, puis il y a l'ADN spirituel. Ça, c'est luthérien. Comprenez que c'est sacrément angoissant comme attitude. Que va répondre le magistère de l'Église au regard de cela? C'est de savoir que déjà, Dieu ne connaît pas positivement cette réalité finale. En revanche, il sait la façon dont on va se comporter à l'égard de sa miséricorde. Et il y a cette phrase de l'Épître aux Romains, « Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est ce que je vais appeler la providence. La providence divine, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que Dieu, durant l'ensemble de mon existence, va faire en sorte que je puisse recevoir sa miséricorde. Donc Dieu met tous les moyens pour que, à chaque instant de mon existence, je puisse vivre de la miséricorde divine. En revanche, il sait comment moi je vais la recevoir. Ça, c'est clair. Mais cela, ce n'est pas un jugement positif. Donc il prend sa source en Dieu, mais c'est quelque chose qui prend sa source en moi. Sachant qu'en même temps, le bon Dieu fait tout pour que, justement, mon cœur puisse s'incliner vers sa miséricorde et non pas la refuser. Et ça, c'est le premier élément du magistère de l'Église. Le deuxième élément, c'est de voir que quand je suis à ce moment extraordinaire de ferveur, eh ben, mon rapport à Dieu, il est unique. Et il n'implique pas ce qu'il sera plus tard. Et ça, c'est le réalisme du rapport à l'éternité. Mon rapport à Dieu, il est maintenant. Il n'est pas dans ce qui sera ou ce qui a été, il est maintenant. Et c'est libérant, parce que de toute façon, c'est le sens radical de l'attitude de l'adoration, ça. Et où, dans l'instant présent, je découvre la grâce divine. Alors, par derrière cette question, je crois lire salvation de tout homme, même celui qui ne reçoit pas le baptême. Alors, je vais revenir en répondant à la troisième question. Un chrétien peut baptiser un enfant qui est en train de mourir. Utilité si chaque homme est appelé à être sauvé par la croix du Christ, a priori un nouveau-né. Alors, vous voyez, je crois aussi que c'est important de voir ce que signifie le baptême. Vous voyez. Le baptême, ce n'est pas le moyen par lequel le salut est donné, formellement. Le baptême, c'est la manifestation du salut. Vous voyez, le sens de la sacramentalité, c'est un sens de visibilité. Formellement, le salut, il est donné par Dieu, comprenez bien. En revanche, il est manifesté par le baptême. Le cas tout simple, c'est le cas du catéchumène. Un catéchumène qui est en préparation baptismale, eh bien, il a la foi, il vit du mystère du salut. Ce n'est pas le jour de son baptême, clac, qu'il vivra du mystère du salut. En revanche, le jour de son baptême, sacramentellement, le salut sera manifesté. Vous voyez, il ne faut pas bloquer les choses. Donc, vous voyez, il y a une raison formelle qui est cause du salut, c'est la grâce divine. Et cette grâce divine, elle passe habituellement par les sacrements, mais elle ne passe pas obligatoirement et d'une façon nécessaire par les sacrements. Et ça, je crois que c'est important à comprendre. Donc, vous voyez, le baptême, c'est le lieu où je vis du salut, d'une façon sacramentelle, mais il est tout à fait concevable que le salut soit donné en dehors du baptême. Alors, vous voyez, maintenant, quel est le problème? Ceux qui ne reçoivent pas le baptême, qu'en est-il? Ben, les personnes qui ne reçoivent pas le baptême, voyez, sont invités à s'ouvrir à cette miséricorde divine. Ils ne le vivent pas d'une façon visible dans l'Église à travers la sacramentalité baptismale, mais du côté de l'intention divine, la miséricorde et le mystère du salut sont donnés. Alors, maintenant, il y a encore quelques questions. Alors, les pratiques données aux Juifs étaient en vue du salut. Ça, c'est clair, d'une façon particulière. Vous voyez, l'ancienne alliance était là pour manifester l'incapacité de l'homme de vivre sans Dieu. Sachons que dans la pratique de la loi mosaïque et son extension, il y avait 637 préceptes. Alors, bonjour, la complication casuistique en se disant le soir, est-ce que j'ai tout pratiqué ? Et le résultat, c'était dire non. Ça, je crois qu'il fallait être honnête. Donc, si vous voulez, la grande pédagogie divine à travers la loi mosaïque et sa conséquence, et toutes ses ramifications, c'était de manifester l'incapacité de l'homme à inscrire en lui la loi divine, sans le secours de Dieu. Donc c'est une préfiguration de la grâce nouvelle, de l'alliance nouvelle. Alors, il est dit, après, dans la question, « Aujourd'hui, le salut est donné par le baptême à chaque homme et à toute l'humanité. » Alors, je rappelle, c'est le moyen ordinaire par lequel le salut est donné, mais il est clair que la grâce divine peut être communiquée, selon le bon vouloir de Dieu, à travers d'autres moyens. Les pratiques, c'est-à-dire la loi, sont données aux chrétiens pour dire oui au salut, pour dire merci. Le chrétien garde la liberté de dire non en refusant la pratique. Ça, c'est clair. On sait tous dire non et c'est souvent comme ça qu'on s'affirme. Parce que vous avez remarqué, on se sent mieux après avoir dit non plutôt qu'après avoir dit oui. Quand on dit oui, on dépend quelqu'un. Quand on dit non, ah, je suis moi-même. Vous n'avez pas remarqué ? Dans l'obéissance, par exemple. Alors, il y a alors le pardon pour se rattraper. Oui. Alors, c'est clair, on peut vivre de cette spiritualité. Hein. Seigneur, je fais des gaffes, puis au dernier moment, je viendrai me confesser. Alors, vous voyez, on faisait ça à un certain moment dans l'histoire de l'Église. On retardait le plus possible le baptême pour être sûr d'aller au ciel. Donc, on se faisait baptiser sur son lit de mort. Vous voyez, la visibilité de l'Église est un peu mortuaire. Et c'est vrai qu'on a pu penser des choses comme ça. C'est vrai, c'est ce qui se passait dans une certaine période, principalement à l'époque carolingienne. On retardait le plus possible le baptême pour faire en sorte que, immédiatement étant baptisé, hop, on monte au ciel et là, on est sûr d'être dans la vision baptifique. Alors, s'il ne pratique pas le pardon, c'est le péché de l'esprit. Bon, alors, vous voyez, le péché de l'esprit, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, que simplement de refuser le pardon. Et le péché de l'esprit dans... Alors, je vous renvoie au catéchisme de l'Église catholique, hein, c'est fondamentalement refuser la miséricorde. Mais il peut y avoir des tas de raisons psychologiques par lesquelles je refuse le pardon. Et donc, je ne peux absolument pas porter un jugement sur ce que l'attitude de quelqu'un à l'égard du péché contre l'esprit. Ça me semble évident. Alors, trois questions. Peut-on dire les choses ainsi, à peu près ? Deuxième question, et les mérites là-dedans ? Alors, ça, c'est fiction extraordinaire. Et les mérites, qu'est-ce que c'est que les mérites ? La notion de mérite, elle n'est pas, vous voyez, comme on pourrait l'imaginer à une certaine période dans l'éducation nationale. On a un bon point, 10 bons points, une image, 10 images, un livre. Et quand on a le livre, ça y est, on est au ciel. Et je pense que la notion de mérite, elle n'est pas du tout là. La notion de mérite, elle se situe au niveau de la coopération que j'ai à l'égard de l'œuvre de Dieu en moi. Autrement dit, ma coopération, elle est méritoire. Et cette dimension méritoire, elle permet à la miséricorde de s'installer davantage dans ma personne. Vous voyez, c'est en ces termes-là qu'on parle de mérite. Et non pas « je fais mes efforts, Dieu me récompense ». Non, non, je coopère à l'œuvre de Dieu. Et cette coopération, elle devient méritoire. Du simple fait que je me mobilise pour mon œuvre de sanctification. Après, y a-t-il un homme en enfer ? Dernière question. Eh bien, écoutez, c'est une question importante, délicate. Alors, pour ça, on va faire une distinction entre la foi et l'espérance. Vous voyez, la foi va être source de connaissance, l'espérance aussi va être source de connaissance. Il est clair que la foi m'enseigne qu'il y a un enfer. C'est évident, les textes sont clairs. Les textes par analogie me disent que selon telle attitude, on peut aller en enfer. Pensez aux riches par rapport au pauvre Lazare. Ça aussi, c'est un texte clair. On m'enseigne aussi que Jésus a eu des paroles très dures à l'égard de Judas. Mieux eût-il valu que cet homme ne soit pas né. Quand même des paroles dures. Ça, c'est la connaissance que ma foi me donne. Il y a une réalité qui s'appelle l'enfer. Et donc, il y a possibilité d'avoir une personne en enfer. Ça, c'est clair. On ne peut pas dire le contraire. En revanche, l'attitude de mon espérance aussi est source d'une connaissance. Qu'est-ce que l'espérance, sinon une vertu qui me permet, en m'appuyant maintenant sur le secours de la grâce divine, de vivre déjà le terme de mon existence, qu'est le ciel. Je pense que tout le monde est à peu clair sur ce que c'est que l'espérance. Autrement dit, espérer, c'est m'appuyer sur la grâce de Dieu, maintenant, en étant persuadé que ce que je vis maintenant aura sa plénitude au ciel. Ça, c'est pour la dimension personnelle de mon espérance. Mon espérance aussi, c'est de recevoir fermement cette intention de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Vous voyez ? Et donc l'attitude de l'homme d'espérance, c'est d'espérer que la miséricorde aille jusqu'au bout. Ça signifie quoi ? Ça signifie que pratiquement, je ne peux pas me permettre de dire qu'il y a quelqu'un en enfer. Ou sinon, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que dans mon espérance, j'ai déjà mis une limite. Qu'il y ait une personne en enfer, ça, c'est pas ma question. C'est pas là-dessus que je vais spéculer. Mon attitude d'espérance, c'est d'accueillir la miséricorde de Dieu en suppliant la miséricorde de Dieu de s'étendre à chacun et que personne ne refuse cette miséricorde. Ça, c'est une attitude pratique juste. En revanche, je ne dois pas glisser de cette attitude qui est modelée sur l'espérance chrétienne à une attitude de connaissance de foi en disant « donc il n'y a personne en enfer ». J'espère qu'il n'y a personne en enfer, mais je ne sais pas. L'enfer existe, c'est un donné révélé. Qu'il y ait quelqu'un, je n'en sais rien. En revanche, que dans mon espérance, je dise « oh, celui-là, on est sûr qu'il y est », concrètement, je ne vis plus d'espérance. Vous comprenez ça ? Bon, si c'est clair, c'est merveilleux. Alors, maintenant, on va continuer notre petit travail en regardant dans le Nouveau Testament. Les lieux importants où on apprend à découvrir ce qu'est l'Église. Alors, il y a 6 points que je vais essayer de détailler. Alors, dans un premier temps, avec vous, je vais faire un petit peu de philologie. Excusez-moi, ça va peut-être sembler un petit peu pénible. Autrement dit, je vais essayer de vous faire réfléchir sur cette expression grecque « ecclésia ». Vous pouvez la voir au chapitre 19, verset 32 des Actes des Apôtres. Et ce terme « ecclésia hein, » qu'on a traduit en latin « ecclésia » et en français « l'Église » tire d'après le livre des Septante. Hein. Les Septante, c'est quoi ? C'est la traduction grecque des Juifs de la diaspora autour du bassin méditerranéen. On a fait une traduction de l'Ancien Testament en passant de l'hébreu au grec, d'un terme hébreu, Kaal, que vous voyez au chapitre 16, verset 3 du livre des Nombres. Allez voir ces références, c'est intéressant à regarder. Et Kaal signifie quoi ? Ça signifie le peuple de Dieu rassemblé pour le culte. C'est très spécifique hein, comme mot. Hein. Ce n'est pas un terme générique. Mais c'est le peuple de Dieu, aimé pas. Non, non, non. C'est le peuple de Dieu rassemblé pour le culte. Et le terme hébreu, kahal. Et ça a donné ecclésia. Donc vous voyez, l'ecclésia, qu'est-ce que c'est ? Au sens étymologique du terme. C'est le peuple des baptisés. Rassemblés en vue d'un culte rendu à Dieu. Mais ce n'est pas un fourre-tout, hein, ça a une signification bien précise au point de vue du vocabulaire. Et on a aussi une autre traduction du mot kahal par le mot synagogué. Synagogué signifie synagogue. Autrement dit, désigne l'assemblée juive, encore rassemblée pour rendre un culte à Yahvé. Et là, on a un passage très important dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 1. qui donne une nouvelle signification à cette expression hébraïque, où il est dit « Ecclésia, tout est où ?» Autrement dit, on n'est plus dans la signification d'un peuple qui rend un culte à Dieu, mais on est dans la signification que prendra le sens de l'Église au point de vue du néo-testamentaire, le peuple de Dieu, l'assemblée de Dieu. Alors vous voyez, bon, je souligne simplement ça pour montrer, vous voyez, l'évolution que l'Esprit-Saint a donnée à ce terme bien précis de peuple qui rend un culte, à cette notion d'assemblée de Dieu. Et au point de vue, là pour terminer sur ce premier point, sur regard sur le langage, je vous renvoie à Philippiens 3:2 ou à Colossiens 2:11 ou à Romains 2:28. Où l'Église, donc cette Ecclésia, est appelée l'Israël nouveau. Donc vous voyez, autrement dit, on s'attribue la notion vétérotestamentaire de Kahal pour en faire cette expression néo-testamentaire d'Église. Bon voilà, ça c'est un point, excusez-moi, peut-être un peu... j'aurais peut-être dû me taire là-dessus, mais voilà. C'est un point qui me semble important. Alors, après, deuxième aspect qui est intéressant, là je vous renvoie à la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 1, chapitre 14, verset 33, à l'Apocalypse, chapitre 20, verset 9, ou chapitre 22, verset 23. Et là, c'est une expression extraordinaire, « O agio », les saints. Ça, c'est un qualificatif extraordinaire. Autrement dit, les saints désignent la communauté chrétienne. D'une façon précise, la communauté chrétienne de Jérusalem, et par extension, désigne l'ensemble des chrétiens. C'est extraordinaire comme nom. Les saints. Oi agio. C'est extraordinaire. On peut se dire, voilà, les saints. Sans trop de prétention, ça vient de Dieu. Et alors là, ça nous renvoie, vous voyez, cette notion de sainteté qui est très importante, hein, elle nous renvoie à la sainteté de Dieu, principalement au chapitre 19 de l'Exode, où il nous est montré que, vous voyez, l'homme est saint parce qu'il est élu par Dieu. Israël est saint parce qu'il est élu par Dieu parmi l'ensemble des peuples. De la même façon, le chrétien est saint parce qu'il est élu par Dieu. Alors ça, c'est le troisième aspect que je voulais souligner. L'autre manière d'exprimer l'Église, je vous renvoie Romains chapitre 8, verset 33, ou Romains chapitre 1, verset 7. L'Église représente les élus, ceux que Dieu a appelés. Vous voyez, c'est important parce que, à travers cette dimension, cette particularité du choix de Dieu, on rentre dans l'ensemble de l'économie de Dieu à l'égard de l'Église. Alors, pour ça, je vous invite à lire un petit livre qui est relativement rapide à lire, puisque c'est un livre de Grégoire le Grand, qui est le commentaire du Cantique des Cantiques. Et pourquoi il est rapide? Parce que je crois qu'il a commenté que les 8 premiers versets. Donc vous voyez, c'est rapide. Ça se lit en une heure. Et là, il a une analogie de l'Église qui est extraordinaire. Mais ça vous fait comprendre le sens de l'élection. Vous voyez, pour lui, l'Église, c'est une maison. Dans cette maison, il y a plusieurs pièces. Bon, la pièce principale, c'est la chambre du roi. Ceux qui sont dans la chambre du roi, c'est ceux qui actuellement sont unis au Christ. Après, il y a d'autres pièces. Bon, il peut y avoir la cuisine, il Il peut y avoir le cellier, il peut y avoir l'ancré. Tous ceux qui sont dans la maison, c'est l'Église. Et puis, dans cette maison, mais il y a un parvis. Il y a des gens sur le parvis, ils ne sont pas dans la maison encore. Eh bien, ils sont quand même dans l'Église. Et puis, chose étonnante, autour de la maison, il y a une propriété. Et il y a des gens qui sont dans la propriété. Eh bien, ces gens-là, ils sont aussi dans l'Église. Et en dehors de la propriété, il n'y a rien du tout. Donc, personne ne peut être en dehors de la propriété. Vous voyez, c'est intéressant, pourquoi ? Parce que ça nous montre le vouloir de Dieu, qui est d'une certaine façon à plusieurs niveaux. Le vouloir de Dieu, c'est que tout homme, ça, il n'y a rien à faire, on ne peut pas le mettre en doute, c'est marqué dans l'Écriture. En revanche, dans ce tout homme, il y a une part particulière des uns par rapport aux autres. Les uns sont appelés à signifier ce qu'est la chambre nuptiale à l'ensemble des autres. Donc il y a différents stades dans l'appartenance à l'Église. Il y a ce qu'on appelle la visibilité sacramentelle. La visibilité sacramentelle, quelle est-elle ? C'est celui qui est capable de signifier dans son existence le mystère de l'épousaille. Le lieu privilégié pour ça, hein. Ça, Saint Grégoire était bénédictin, il dit c'est la vie religieuse. La vie religieuse est le lieu spécifique où le mystère des épousailles est manifesté. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne qui est à côté de l'Église, qui est dans une autre pièce de la maison, ne va pas signifier aussi quelque chose de l'Église. Vous voyez, c'est important parce que il y a deux niveaux dans ce qu'on appelle l'élection. Il y a l'attitude fondamentale de Dieu à je suis dans l'intention divine fondamentale, et de l'autre côté, je suis dans l'économie divine par rapport à la sacramentalité de l'Église. Est-ce que c'est bien compris, ça ? Vous voyez, je crois que c'est très important pour éviter d'avoir un schéma qui fait, bon, ceux qui sont géniaux, ceux qui sont à la maison, puis les autres dehors. Mais bon, je ne veux plus vous voir. Et c'est dans ce sens-là, hein, qu'on pourra comprendre cette affirmation, hein, de Tertullien. Hors de l'Église, point de salut. C'est-à-dire que quelqu'un qui se trouve pas dans le choix de Dieu, eh ben, il ne peut pas vivre du salut. Souvenez-vous cette affirmation, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Donc vous voyez, la dimension d'élection ne signifie pas pour celui qui n'est pas appelé une dimension de réprobation. Il y a un mystère du gouvernement divin que je ne peux pas sonder et dont je n'ai pas l'intelligence, mais que je dois recevoir avec confiance. Souvenez-vous ce passage merveilleux, là, c'est dans la vie du curé d'Ars. C'est cette femme qui vient se lamenter, mon mari s'est suicidé, c'est la catastrophe. Elle pleure, et le curé d'Ars, vous savez, lui dit, mais vous savez, entre le pont et le fait qu'il soit en bas, il a eu le temps de changer. Bon, vous voyez, c'est anecdotique. Alors, le quatrième aspect que nous donne le Nouveau Testament, c'est un aspect important, c'est la dimension catholique. Là, je vous renvoie à l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 12 à 19, où il nous est montré que l'Église n'exclut pas les païens du peuple de Dieu. Et c'est ce qui fonde la dimension de la catholicité de l'Église. Que signifie catholique ? Ça veut dire universel. Allez voir aussi dans les Actes, chapitre 15, verset 14, où il nous est dit cette affirmation extraordinaire, « Tous les peuples sont désormais, en faisant référence à la passion du Christ, tous les peuples sont désormais, pour Dieu, un nouveau temple, un nouveau peuple. » Mais c'est très important de voir, nous on s'affirme Église catholique, ce n'est pas une étiquette. C'est l'intention fondamentale du Christ. C'est l'intention fondamentale de Dieu. Et je ne m'affiche pas catholique comme je m'affiche dans mes idées politiques. Et la catholicité signifie l'universalité du salut. Et ça, c'est une dimension importante à comprendre. Alors, le cinquième point du Nouveau Testament, qui est sûrement le point le plus riche, mais vous comprendrez, je ne vais pas le traiter, puisque c'est le père, hein, Marie-Dominique, qui le traitera. C'est les quatre grandes analogies tirées du Nouveau Testament concernant l'Église. C'est d'abord l'analogie du corps, l'analogie de la vigne, l'analogie du temple et l'analogie du royaume. Donc vous verrez comment l'analyse et la méditation et la méditation de ces différentes analogies nous permettent de découvrir certains éléments constitutifs du mystère de l'Église. Alors le dernier point du Nouveau Testament que je tirerai principalement des Actes des Apôtres, c'est la constitution de l'Église comme communauté visible. Il y a un moment, il y a eu une première communauté chrétienne. Et chose importante, c'est de voir que cette constitution de l'Église, elle est dans l'histoire l'actualisation de l'Église, reflet du mystère trinitaire. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ce matin, hein. Vous voyez, le sens de la communauté chrétienne naissante n'est rien d'autre que l'actualisation de l'Église comme mystère trinitaire. Comme aujourd'hui, vous voyez, l'Église, avec le visage qu'elle a, et l'actualisation du mystère trinitaire. Et là, il faudrait lire, vous voyez, tout le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens sur la diversité des ministères et la diversité des charismes. L'Église est un corps qui trouve son harmonie de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, donnant l'harmonie au corps de l'Église, va susciter dans ce corps différents ministères et différents charismes. Voilà, en gros, les différents éléments. Maintenant, avec vous, je vais faire un parcours de 20 siècles. En 3 minutes. Comme quoi, le temps, dans l'instant présent, ça nous permet de rejoindre l'éternité. Alors, d'abord, l'époque patristique. Hein. Il y a certains points qui sont importants, qui ont été des précisions de certains pères de l'Église. La première personne qui a nourri la réflexion théologique au propos du mystère de l'Église, c'est saint Irénée. Et la grande réflexion de saint Irénée, c'est la question de l'apostolicité, la succession apostolique. Autrement dit, l'Église, Jésus la fonde, il y a des apôtres, ça va, Jésus choisit les apôtres. Ok. Après, il y a une succession. Ça se passe comment, tout ça? Et l'Esprit-Saint est là pour permettre à cette succession de se réaliser. Et le grand principe de cette succession, c'est le choix des apôtres. Autrement dit, il y a continuité vitale d'une succession apostolique à partir du moment où il y a un rattachement aux apôtres. Et donc, la place actuelle d'un évêque, eh bien, il descend directement. Il descend directement des apôtres. Par le choix successif des apôtres, la continuité de l'Église se réalise. Ça, c'est la réflexion de saint Irénée. Le deuxième élément c'est l'apport de quelqu'un comme saint Cyprien. Alors saint Cyprien, une réflexion très importante. C'était mon passe-maker. Alors, Alors, vous voyez, Saint Cyprien est celui qui a défini la notion de corps épiscopal uni à Pierre. Autrement dit, vous voyez, le rapport de l'épiscope avec Pierre est défini comme un rapport de présidence et aussi comme un rapport d'autorité. Alors, il y a aussi chez les pères grecs, hein, là, ils sont nombreux à avoir développé cette notion. Bon, je ne fais que la citer, vous pouvez tout de suite l'oublier. C'est la notion de cosmisme. Autrement dit, c'est, on pourrait traduire ça, l'union à la totalité. Autrement dit, l'Église n'est pas simplement la communauté visible, mais intègre en elle l'ensemble du cosmos. Alors, et ça c'est très important parce que derrière ça, il y a une réflexion de fond qui a été reprise chez un philosophe quasiment contemporain, en tout cas moderne, qui s'appelle Hegel. Et vous allez voir que cette notion, elle taraude d'une certaine façon l'ensemble de la pensée chrétienne. Vous voyez, la croix du Christ, et le Christ meurt sur la croix, cette croix du Christ, elle a une dimension contingente. Vous êtes d'accord? Ça se passe dans un lieu, à une période donnée, avec des personnes qui y assistent. Cette contingence de la croix, elle a une portée universelle. Elle englobe l'ensemble, elle englobe toute chose, vous voyez. Le mystère de la croix est capable de s'étendre sur l'ensemble de l'humanité, l'ensemble de son histoire, l'ensemble du cosmos. Chose étonnante. Comment un fait contingent peut-il avoir une portée universelle? La simple raison, elle est claire, hein, c'est parce que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu est présent dans le mystère de la croix. Et du fait que Dieu est présent dans le mystère de la croix, il récapitule dans son éternité l'ensemble des choses créées. Ça, c'est un donné fondamental à comprendre. Ce qui fait que l'action de l'Église, qui actualise dans l'histoire le mystère du salut, par cette actualisation, est capable aussi d'englober l'ensemble du cosmos. C'est un petit peu ce que voulait signifier la théologie grecque. Vous voyez, vous avez un livre sur le sacerdoce qui a été écrit par le père Daniel Ange qui s'appelle « Entre tes mains le cosmos ». On pourrait dire, bon, c'est une belle fable extraordinaire. Vous voyez, c'est écrit à un jeune prêtre. Alors, quand il consacre l'hostie, là, le cosmos, vous voyez. Bon, ça peut paraître métaphorique, mais au point de vue théologique, c'est une très forte signification. La signification que le fait contingent que je pose a une portée universelle et éternelle. Autrement dit, englobe toute chose. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, cette notion. Alors, après, je vous envoie à Saint Ambroise. Saint Ambroise est le premier qui a inscrit la réflexion ecclésiologique dans une réflexion politique. Bon, vu ce qu'il a vécu, on le comprend. Et c'est le premier qui a posé le principe de l'indépendance de l'Église à l'égard de l'État. Et on verra tout au long de l'histoire de l'Église combien il est difficile à maintenir ce regard. Alors, après les grands acquis de l'ecclésiologie, c'est bien sûr saint Augustin, à travers le livre des deux cités, où il essaie d'accorder l'unité de ces deux pouvoirs. Ces deux pouvoirs sont distincts, très bien, mais comment vont-ils s'unifier? Alors, il y a un pape que j'aime beaucoup, qui s'appelle Grégoire le Grand, et qui lui a une vision ecclésiologique assez étonnante. La première, c'est le regard qu'il a sur le souverain pontife. Vous connaissez tous cette expression, le serviteur des serviteurs. Ça, c'est l'épitaphe qu'il a fait rajouter au nom du souverain pontife. S'il est le pontife suprême, il est aussi avant tout le serviteur des serviteurs. Et puis, chose importante, vous voyez, Saint Grégoire a été pape en 590 jusqu'en 604, me semble-t-il, ou 614, je ne sais plus très bien. Et c'est celui qui a compris la distinction et qui a manifesté le plus la distinction entre le modèle culturel dans lequel on vit et le modèle ecclésiologique. Je m'explique. Voyez, jusqu'en 590, l'Église, c'était quoi? C'était le royaume. Le chef de l'Église, hein, c'était pas le pape, hein, en tant que tel, c'était l'empereur. Autrement dit, voyez, l'Église avait à sa tête, pour l'unité, l'empereur, pour le pouvoir spirituel, le pape. C'est le premier qui a tourné le dos à l'Empire pour ouvrir les portes au monde païen, aux barbares, qui venaient envahir à cette époque les invasions barbares. Donc vous voyez, c'est important de voir que c'est le premier pape qui a distingué la culture dans laquelle il se trouvait, qui était la culture hellénistique, par Constantinople, en imposant une autonomie à l'Église qui soit l'autonomie de sa propre règle spirituelle. Et c'est ce qu'on a appelé le grand mouvement de la réforme grégorienne. Cette réforme grégorienne, hein, qui va jusqu'au XIe siècle, puisqu'elle, d'après les historiens, elle s'arrête à travers Léon IX. Cependant, à un moment de l'histoire, il y a eu une particularité, un retour en arrière étonnant, à travers l'Empire carolingien. Là encore, c'est une expression, des expressions de langage, mais qui vont loin. Le mot « mundus », qui signifie « le monde », a été systématiquement traduit par le mot « ecclesia ». Autrement dit, le monde, c'est quoi? C'est l'ecclesia. La notion de chrétienté, vous savez, on entend la vraie droite française qui nous parle de chrétienté. D'ailleurs, qui est finie, mais c'est peu importe. Vous voyez, la notion de chrétienté, elle vient de là. Autrement dit, le monde, qu'est-ce que c'est? Ben, le monde, c'est l'Église. Autrement dit, l'Église englobe tout. Et bien sûr, là-dessus, Charlemagne, lui, s'appelle comment? Caput Ecclesia. C'est-à-dire le chef, pas... bon. Alors, là-dedans va s'insérer un grand mouvement de réforme qui est la reprise de l'intention de Saint Grégoire, qui en fin de compte, c'est de retirer l'Église au pouvoir des laïcs. Et ça, ça a été sanglant, croyez-le bien. Autrement dit, une véritable distinction qu'on voit principalement chez Grégoire VII, où on va essayer d'établir le rôle spécifique du temporel et le rôle spécifique du spirituel, pour éviter le domaine de la confusion. Et on arrivera à la définition de l'Église dans la grande scolastique, où on disait l'Église, c'est la collectivité de ceux qui sont unis au Christ par la foi, animés par l'Esprit. Autrement dit, vous voyez, un accent véritablement spirituel. Vous voyez. C'est plus du tout ce que je vous disais ce matin par rapport à l'assomption de notre personne par notre vie baptismale. Vous voyez. On insiste pour se détacher de l'emprise du temporel par rapport au spirituel ou du spirituel par rapport au temporel. On insiste sur cette dimension d'unité au Christ. L'Église, c'est les personnes qui sont unies au Christ. Et là, je vous renvoie à saint Thomas, hein, pour ceux qui lisent saint Thomas. Malheureusement, ce n'est pas traduit dans le De Veritate, question 29. Où l'Église découle de la grâce qu'on appellera la grâce capitale du Christ. Et la grâce capitale du Christ, c'est d'unir l'humanité renouvelée par le baptême dans un corps harmonieux, présentant à Dieu un culte. Alors j'ai encore deux petits points là pour terminer, pour pouvoir commencer demain la lecture du Concile Vatican II. Le premier, c'est la réforme, et le second, c'est l'école de Tübingen, vous voyez, fondée par Müller, qui a une importance très importante en ecclésiologie. Alors, vous voyez, la réforme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remet en question l'institution ecclésiale, du fait de son fonctionnement un petit peu hybride, et par là, de l'autorité ecclésiale. La réaction à cette réforme a donné deux théologies de l'Église, hein, l'un d'un jésuite qui s'appelle Banès, et qui a été, pour ceux qui connaissent, dans la querelle d'Auxilis, une querelle très importante au sujet de la grâce. Et pour Banès, L'ecclésiologie, il appellera ça l'ecclésiologie magistérielle. Ce qu'il compte dans l'Église, c'est le pape, qui gouverne et qui instruit les fidèles. Vous voyez, ça, c'est un des aspects de l'Église. Et il y aura bien sûr un saint pour rattraper tout ça, Saint Robert Bellarmin, donc au XVIe siècle, qui je crois, est mort en 1593. Et lui introduira une dimension qui est très importante, qui sera reprise constamment après. C'est l'Église a une notion de visibilité du mystère de Dieu. La première fois où l'expression visibilité est utilisée. Et cela en rapport avec la dimension de sacramentalité. Donc, et le rapprochement entre la sacramentalité et l'ecclésiologie. Alors, dernier point, l'école de Tübingen, c'est une école qui a été fondée en Allemagne en 1823 par un théologien qui s'appelle Müller. C'est une école de renouveau théologique à travers une reprise fondamentale de la scolastique. Vous savez, à cette époque, on avait ce qu'on appelait les théories d'école, tous les manuels qui étaient des manuels de théologie scolastique, où on fonctionnait par mode de thèse, d'antithèse, et puis ainsi de suite. Et Müller a voulu faire l'effort de renouveler d'une façon vitale l'enseignement de la théologie, et principalement sur l'Église. Et l'apport spécifique de cette école de théologie, c'est de manifester que l'Église doit être considérée en elle-même, non pas seulement comme une société visible et hiérarchisée, ni comme magistère, mais en sa vie interne et comme un organisme tout entier vivant, relié à Dieu. Autrement dit, tout le regard de l'Église est un regard soit institutionnel ou périphérique. La véritable réalité du mystère de l'Église, c'est d'abord sa vie intime. Et le fruit de ce renouveau théologique sera à travers la constitution des Ecclésias du Concile Vatican I, et principalement en 1943, par ce texte de Pie XII, Mystici Corporis, l'Église corps mystique du Christ, où là on a de fait un regard sur l'Église au point de vue de l'élaboration de la doctrine qui portera d'abord sur sa vie intime, et en fonction de sa vie intime, je pourrai comprendre ce qu'est la structure de l'Église. C'est ce que fera le Concile Vatican II, que nous verrons demain.